dans la grande table des idées aujourd'hui un double exercice de politique fiction avec nos invités. Entre critique et burlesque, Emmanuel Macron fait-il un bon personnage de fiction et la France d'En Marche, un bon décor de roman? On en parle avec nos invités, le romancier et critique musical, auteur en 2001 de Le Voyage en France, prix Médicis, et en 2005 de La Petite Fille et la Cigarette, Benoît Dutertre, qui signe aujourd'hui En Marche, un conte philosophique publié chez Gallimard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à vos côtés, l'écrivain François Médéline, auteur de La Politique du Tumulte, c'était en 2012. Il revient aujourd'hui avec Tuer Jupiter, un roman noir publié à la Manufacture de livres. Bonjour.
Bonjour.
Si l'un, Benoît Dutertre, utilise la fiction pour parler de la réalité, l'autre, François Médéline, transforme le réel en fiction. Derrière ces deux approches, une réalité malmenée par la réforme et l'omniprésence des réseaux sociaux. Tous deux font en tout cas de la fiction le plus court chemin pour s'approcher de la vérité. François Médéline, on commence avec vous. Vous êtes passé par la sociologie politique, la linguistique, avant d'en arriver au roman. Vous êtes aussi un homme de cabinet. Dans Tuer Jupiter, votre nouveau roman, noir, très noir, vous n'y allez pas de main morte. C'est le cas de dire, puisque vous mettez en scène l'assassinat du président Emmanuel Macron. Alors après le choc, les questions, comment en est-on arrivé là? Qui a tué Emmanuel Macron? C'est une fiction politique aux sources du complot. D'ailleurs, vous écrivez à rebours, vous remontez le fil de l'histoire. Écrire à partir de l'actualité ou de votre expérience, c'est ce qu'il y a de plus excitant finalement pour un romancier?
Quand on est romancier, enfin en tout cas moi dans ma démarche, j'ai un peu braqué le réel quoi. Je m'en suis emparé, et c'est mon côté mauvais garçon. Et puis j'ai emporté le butin. Alors là le butin est précieux, c'est le président de la République française. Mais ça renvoie évidemment à un personnage de fiction parce que le Emmanuel Macron qu'on connaît, lui-même en fait est fictif et raconte une histoire au pays. Et d'ailleurs il dit je ne suis que l'émanation du peuple français, du goût du peuple français pour le romanesque. Et c'est en plus quelqu'un d'irrévérencieux par essence. Enfin je crois qu'il dirait disruptif, sûrement parce qu'il a réalisé le complexe d'Oedipe symboliquement. Voilà quelqu'un d'assez oui, assez disruptif. Et donc, quand il va dans les ambassades et qu'il rencontre les jeunes cadres dynamiques expatriés, il leur dit toujours « Soyez irrévérencieux, brisez les codes, ne respectez pas la norme. » Et donc, c'était un personnage intéressant et c'était... On peut tout se permettre, finalement, avec lui. Donc, je suis allé jusqu'à imaginer son assassinat.
De près ou de loin, François Médéline, vous en avez connu plusieurs quand même, de Jacques Chirac à Édouard Balladur, François Fillon à Nicolas Sarkozy. Parmi tout cela, vous diriez donc qu'aujourd'hui, pour vous, Emmanuel Macron fait un bon personnage de roman?
Pour moi, c'est un bon prétexte pour parler du monde dans lequel on vit. La singularité du monde dans lequel on vit, c'est la société du spectacle 2.0. Et c'est quelqu'un d'assez en même temps. Il est en même temps dans l'ancien monde, qui se souvient de René Char, le monde de l'information. Puis il est en même temps dans le nouveau monde, cette société d'hypercommunication, où les informations ne s'appellent plus comme ça, mais des datas. Et donc, pour moi, ce personnage-là était justement, vu ce qu'il représente et ce qu'il incarne, un bon prétexte à parler de ce monde, où ce monde... dans lequel on ne sait plus ce qui est vraiment faux, ce qui est vraiment vrai. Et surtout, en fait, c'est une réelle révolution, pas politique, hein, puisque c'est le titre de son livre de campagne, mais une révolution, une révolution technologique où le réel a toujours la même temporalité, mais les datas circulent à la vitesse de la lumière, et en fait, ce qu'on appelait avant le virtuel a quasiment pris le pouvoir sur ce qu'on appelait avant le réel.
Benoît Dutertre, est-ce que En Marche, votre roman, conte philosophique, comme vous le nommez, est un roman, un conte en même temps?
L'expression est souvent utilisée dans le livre, mais pour vous dire tout à fait la réalité, j'ai écrit ce livre avant l'élection d'Emmanuel Macron. Le titre, j'avoue que je l'ai trouvé après. Mais je l'ai écrit un peu avant, il y avait je crois déjà un peu le mouvement des marcheurs, mais j'étais assez fasciné par ce profil du trentenaire acquis à la mondialisation, plein de certitudes, mais en même temps de bonne foi et de naïveté dans l'idée qu'avec tout ça, il va réformer le monde et le rendre meilleur, et puis qu'il se heurte à la réalité. C'est pour ça que j'ai voulu créer un personnage. Je voulais depuis longtemps faire un petit peu un double de Candide, comme ça, à notre époque, dans un pays imaginaire qui ressemblerait beaucoup au nôtre. Et donc, c'est d'abord ce personnage du marcheur qui m'a intéressé. Et puis, effectivement, après, quand j'ai fini le livre, comme mon personnage, en plus, marche beaucoup dans ce pays imaginaire qu'il visite, qui s'appelle la rue Génie, je me suis dit, tiens, je pourrais l'appeler En Marche. Mais je me suis dit, tiens, je pourrais aussi l'appeler En Même Temps. Parce que une des caractéristiques de la rue Génie, c'est qu'on fait beaucoup de choses en même temps. Par exemple, pour donner un exemple qui pourra parler aussi par rapport à la situation française, on voudrait, par exemple, à la fois protéger la planète et libéraliser les transports, par exemple, vous voyez, favoriser les déplacements en autocar et condamner les petites lignes de train, mais en même temps être pour le développement durable. Et il y a là des contradictions énormes qui apparaissent et qui sont un petit peu aussi une des caractéristiques de ce pays imaginaire assez proche d'une autre, qui est la rue Génie, mais où j'ai mis du Macron, mais on pourra trouver aussi un peu du Hidalgo, du ceci, du cela. Tout le monde marche sur des véhicules à roulettes, des trottinettes, des vélos, etc. Dans cette ville de Zbritz, qui est la capitale de la rue Génie. Voilà.
Donc, tout le monde tente de cohabiter, même, Benoît Duterte. Un voyage dans le meilleur des mondes, façon Huxley, est formé par un économiste, le docteur Gloss, ce pays idéal, la rue Génie. Ce pays idéal que va découvrir votre protagoniste, Thomas, jeune député du parti En Avant. C'est donc la rue Génie, jeune république, candidat à l'Union européenne, un modèle de société ouverte et éco-responsable. Alors là, il y a vraiment une philosophie de la réforme qui est pensée dans ce conte, avec vous, Benoît Duterte, inspiré par cet économiste. Ce serait qui, pour vous, le docteur Gloss actuel, qui serait un peu le cerveau de la transformation aujourd'hui chez
vous ? En tout cas,
vous.
Il a écrit un livre qui s'appelle « La mondialisation heureuse », mon héros, ça rappellera d'autres titres. Il s'appelle Stéphane Gloss, parce qu'on est à l'Europe, Stéphane, c'est un prénom, mais évidemment, on reconnaît Pangloss. Et surtout, il a une théorie qui, moi, dans mes angoisses par rapport à la société contemporaine, était importante. C'est à la fois l'hyper-libéralisation de l'économie et l'hyper-contrôle des comportements individuels. Et c'est quelque chose que moi, je sens beaucoup dans la vie quotidienne de notre époque. C'est-à-dire, d'un côté, voilà, on abandonne tous les services publics, on libéralise parce qu'on affirme que le privé, c'est toujours mieux que le public. Et en même temps, pour tout ce qui est de la sécurité, de l'hygiène, de la protection, on nous impose comme ça une espèce de carcan réglementaire qui est souvent de plus en plus lourd.
Voilà, et une société peu plus liberticide, où sourire à une femme dans la rue peut valoir agression, comme dans En Marche, votre roman, où l'individu est de plus en plus fliqué aussi.
Oui, où il y a toute une politique, alors, qui est très importante dans le livre aussi, du développement, parce que je reprends, bien que je sois par certains côtés de convictions tout à fait écologistes, comme on dirait, mais en même temps, il y a toute une rhétorique aussi du développement durable qui est partout, mais qui en fait est simplement un nouveau filon de l'économie moderne. Et donc, dans ce pays, effectivement, il y a par exemple une politique du tri des déchets qui est extrêmement autoritaire, mais en même temps, tout le service public du ramassage des ordures, etc., a été complètement privatisé et mis à l'abandon. Il est d'ailleurs en grève. Et donc, voilà, il y a le heurt entre cette nouvelle société, et puis en même temps, ce qu'on découvre aussi un peu dans le livre, une espèce de vieux monde syndical, archaïque, etc., qui lui ne marche pas avec ça, et voilà, c'est ce conflit qui est aussi d'une certaine façon au cœur du livre.
Alors justement, quelles sont vos convictions à vous, Benoît Duterte, comprendre qui est derrière le roman, sans vous demander pour qui vous votez et pour qui vous avez voté, mais vous définissez plutôt comme un écrivain ni de gauche, ni de droite, ou ni gauche, ni droite. Dans le Figaro, vous utilisez cette formule écrivain droche. On sent qu'il y a un tout petit peu. C'est
on
ça.
On l'utilise pour moi.
Hein, voilà.
Enfin, dans un très sympathique portrait d'ailleurs. Mais
exactement.
Voilà.
Il y a un petit peu de droite donc et de gauche en vous.
Vous savez, j'écris parfois dans le monde diplomatique et parfois dans le Figaro. Alors voilà, on pourra.
Mais vous savez vous où vous situez dans tout ça?
Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est le concret, c'est les expériences, c'est plus que les dogmes politiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de confronter plutôt, d'une certaine façon, le discours de l'époque à la réalité de l'époque. Et ça mène à une pensée critique, évidemment, du système, en tout cas néolibéral, contre lequel je suis plutôt assez virulent. Voilà. Donc, en ce sens-là, je serais peut-être de gauche. Mais en même temps, ça amène aussi à une forme peut-être de lien avec l'histoire, avec le passé, qui est pour moi très important, quoi je serais peut-être plutôt de droite.
Alors en rue Génie, Benoît Dutertre, nous ne transigeons pas avec le réchauffement de la planète, s'exclame fièrement Kimberly, qui rencontre votre jeune héros Thomas, venu voir comment ça se passe en rue Génie et ce qu'il y a de bon à en prendre peut-être et à ramener dans son pays. Qu'est-ce que la fable des fermiers qui ouvre et referme le livre nous dit des transformations de ce monde à marche forcée pour vous?
Vous savez, ça commence effectivement par un couple de fermiers en rue Génie qui voit débarquer une commission d'hygiène, à moitié rugène, à moitié pour l'entrée dans l'Union européenne, et qui leur propose tout un programme pour le recyclage des émanations, des pets de vache, on peut dire, et pour les transformer en énergie. Et effectivement, on retrouve à plusieurs reprises l'histoire de ce petit couple dans le livre. Et moi, ça m'a été inspiré, si vous voulez, par des expériences, notamment dans des fermes des Vosges, où je vais souvent, où je voyais comment les dernières vieilles exploitations agricoles qui étaient d'une certaine façon des modèles de recyclage, de développement durable, où tout est transformé avec le tas de fumier, avec les tables, avec les poules, avec les cochons, où tout marche comme ça, d'une façon merveilleusement liée avec la nature. Aujourd'hui encore, il y a des services d'hygiène qui débarquent dans ces fermes pour les réformer au nom de normes hygiéniques extrêmement strictes, et donc finalement pour détruire des modèles de développement durable, pour les mettre aux normes d'une espèce de modernité plus ou moins verte. Et voilà, donc c'était ça le petit clin d'œil voilà à la réforme rugène et l'idée que les vaches puissent être une menace pour le voilà pour la couche d'ozone et pour l'atmosphère de la Terre. Je trouve on arrive à des telles choses étranges que voilà, je trouve ça amusant pour commencer, pour entrer dans le sujet.
François Medellin, à travers votre roman, vous vous intéressez aussi au storytelling, à cette hyper-communication du monde aujourd'hui. Vous vous intéressez beaucoup aux mots, à ce qu'ils veulent dire et à ce qu'ils ne veulent plus rien dire, justement. Je vous propose, et vous demanderez bien un décryptage, ce que vous entendez à travers cela, d'écouter un extrait de la rencontre entre le président Emmanuel Macron avec des retraités. C'était lors de sa visite à Colombey, les deux églises, au début du mois d'octobre.
Le petit-fils du général, tout à l'heure, en me faisant visiter la boisserie, oui, m'a dit, on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'avait pas le droit de faire, c'est se plaindre.
Ah bon?
Oui. Oh. Et ben, c'était une bonne pratique qu'avait le général.
Oui.
Vous savez, le pays se tiendrait autrement, ce n'était comme ça. On ne se rend pas compte de la chance immense qu'on a.
Oui.
Écoutez. Oui. On vit de plus en plus vieux dans notre pays, en bonne santé. On va tout faire. On fait tout, et je peux vous dire qu'on investit, on a une santé de qualité.
On a bien travaillé.
Vous avez travaillé, vous avez payé la retraite de ceux qui étaient avant vous, qui vivaient moins longtemps.
Aujourd'hui, ils ne pourront pas nous la payer. Ils ne pourront pas se la payer.
Si, parce qu'ils payent la vôtre aujourd'hui.
Elle diminue quand même. Elle
diminue pas, c'est pas vrai.
Elle
diminue
pas. Autant à moitié.
Non.
La mienne n'a pas diminué.
Voilà, merci madame.
Elle n'a pas augmenté, mais elle n'a pas diminué.
Ah, mais c'est pas la retraite. Les retraites de paysans, elles n'ont pas diminué, elles ont toujours
mais
été
oui,
faibles.
Mais oui, monsieur.
Mais donc
oui,
elles n'ont pas diminué.
Mon petit-fils n'en aura jamais de retraite, oui.
Ah bah, je ne suis pas d'accord. Moi, je me bats pour qu'il puisse en avoir.
Ah bah,
mais c'est pour cette raison que je ne peux pas vous dire, je vais donner ça.
Oui.
Je suis obligé de construire une société où il y a les bonnes solidarités et où il y a la bonne énergie.
François Medellin, je suis obligé de créer une société où il y a les bonnes solidarités et la bonne énergie.
Eh bien, c'est l'histoire d'Emmanuel Macron. Ce que je disais, quand je dis que c'est un personnage de fiction, une histoire était servie sous le général de Gaulle, une histoire était servie sous Giscard, un peu empruntée à Chabannes d'ailleurs, une histoire était servie sous Sarkozy. Et donc, depuis le premier jour de la campagne, Emmanuel Macron sert une histoire qu'on pourrait résumer comment un John Fitzgerald Kennedy à la française. Mes prédécesseurs ont oublié de changer le réel, et moi je vais y arriver parce que je vais faire différemment. Et en plus, je suis plutôt beau gosse, comme disent les gens, dynamique, et j'ai même un couple glamour postmoderne, et je travaille justement cette image en faisant des unes de Paris Match avec des professionnels autour qui l'entourent, quoi. Voilà, à l'Élysée, un professionnel du roman national qui est Ismaël Emelien, des professionnels de la communication politique, des gens qui maîtrisent la presse people. Et donc après,
alors là, c'est censé être une séquence improvisée. Est-ce que vous, qui avez été plume d'ailleurs pour différents responsables, vous entendez les mots-clés?
En fait, c'est surtout le comportement, moi, que je vois. C'est-à-dire, ça correspond à l'image, je fais différemment. C'est censé, je pense, je ne suis pas dans le politiquement correct. Moi, je vais au contact. Moi, je dis ce que je pense. Moi, je suis Emmanuel qui vient me chercher Macron. Et donc ça, je pense que ce sont des, séquences où en fait où il lui laisse, où il se laisse et où ses équipes lui laissent une liberté parce que ça sert en fait l'histoire qui est racontée depuis le départ et voilà le John Fitzgerald Kennedy à la française qui va changer le monde quoi. Voilà.
Bah je vais changer le monde. Vous dans votre fiction, vous tuez Emmanuel Macron, vous mettez ce corps en mouvement à l'arrêt. Pourquoi ?
Je lui ligature la bouche. Et c'est c'est un livre qui interroge aussi sur ce qu'on peut se permettre quand on est romancier. Enfin voilà, après je me suis même si lui-même dit qu'il faut être irrévérencieux quand je l'ai allongé sur une table en inox et qu'il est avec une embaumeuse qui lui ligature les lèvres. C'est un personnage fictif, mais c'est un personnage fictif qui s'appelle Emmanuel Macron, qui a les dents du bonheur, deux alliances et qui met des costumes smuggler.
Les dents du bonheur qui faisaient du président de la République un cadavre sincère, écrivez-vous François Médéline.
Oui. C'était une petite adresse au président. Voilà, j'ai intitulé ce chapitre Babylone, parce que ce président voulait être romancier. Il est né en 1977, et moi-même, je voulais être président. Mais je suis devenu romancier, et lui est devenu président. Ça vaut sans doute peut-être mieux, je ne sais pas. Et donc, Babylone, c'est le nom de son premier manuscrit. Et voilà, c'est une petite adresse, parce que l'embaumeuse est une marcheuse, comme dans le roman de Benoît, mais par contre son père est syndicaliste et insoumis, donc elle lui dit c'est parfait ce que vous avez fait, mais en même temps, mon père dit que c'est pas très très bien, il a symboliquement les lèvres closes.
Benoît Dutertre n'ose plus sourire à cause de vous, parce que là, beau spécimen de dents du bonheur. Parlons-en, Benoît du bonheur. On ne connaît pas les chiffres, mais il y a fort à parier que le BNB, le bonheur national brut de ce pays que vous nous racontez, la rue Génie, Benoît Dutertre, dans ce roman En Marche, soit bien supérieur à celui de la France actuellement. Quels sont les indicateurs apparents de ce bien-être en rue Génie ?
Oui, enfin, en même temps, la rue Génie, c'est un pays qui a l'air d'aller bien, hein, mais oui, qui est traversé...
c'est le « en apparence », parce qu'il y a le revers de la médaille.
Par des crises extrêmement extrêmement importantes. Hein, et d'ailleurs, ça finit dans une sorte de guerre, parce que là encore, je voulais reprendre un petit peu le modèle, justement, de Candide, avec cette violence qui s'exerce parfois au nom du bien. Et donc, voilà, le bonheur national brut, en tout cas, en rue Génie, je sais pas, il consiste pour tout le monde, effectivement, voilà... à considérer l'anglais comme la langue unique, mis à part la langue locale qui, elle, est réduite au rang de patois. Il consiste à vendre les forêts à des pays lointains, comme la Chine ou autres, qui se chargent de les exploiter. Il consiste à avoir... J'avais pensé aussi au titre « La ferme sans animaux », à avoir des pseudo-fermes où on vient s'ébattre et se détendre pour découvrir l'agriculture traditionnelle, mais où en fait tous les produits traditionnels qui sont vendus dans la ferme sont importés d'autres pays. Et voilà, tout ça est une espèce de fiction, de fiction de modernité, de fiction de bonheur, mais qui couvre et sous laquelle couvent effectivement des crises syndicales, des crises entre groupes de population, parce qu'en même temps, dans la rue Génie, chacun est là à défendre sa fierté et sinon son identité. C'est une société très très communautarisée où les motards exigent qu'on respecte leur dignité, donc qu'on les laisse rouler sur les petites routes de montagne, où voilà, les footballeuses pensent qu'elles ont été longtemps victimes d'une forme de discrimination en n'accédant pas au même championnat que les footballeurs. Enfin voilà.
Parce qu'il y a un championnat de la diversité aussi.
Championnat de la diversité qui sont au cœur du livre.
Et vous le montrez effectivement, les villes dépolluées ont rendu les banlieues irrespirables. Le tri des déchets se fait chez soi, mais pas dans la rue. Du coup, et les rues sont transformées en poubelles, comme des réformes qui seraient mal pensées. Et pourtant, on aurait tendance à croire que chacun vise aujourd'hui, quand il est aux responsabilités, une sorte de société idéale. Alors à gauche ou à droite, on n'en a pas les mêmes définitions, mais quand même.
Mais moi, en tout cas, parce que je rebondis aussi sur ce qui était dit juste auparavant, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse aussi, je dirais, à travers mon héros, qui croit trouver là un modèle justement de société idéale, et donc à travers aussi le personnage, si on veut, puisqu'on en parle, d'Emmanuel Macron, c'est une forme de profonde sincérité. C'est-à-dire que je ne crois pas tellement... Bien sûr, il y a du cynisme dans la classe politique, mais je ne crois pas que ce soit le cynisme qui soit le moteur. Je crois que c'est vraiment la foi dans l'idée que les réformes... Il n'y a qu'une seule sorte de réforme et que c'est en faisant ces réformes-là qu'on va rendre le monde meilleur. Simplement, cette foi, elle va de pair avec, d'une certaine façon, l'ignorance qu'en fait, ces réformes et cette pensée, elles procèdent d'une idéologie, d'une vision du monde qui se heurte, elle, évidemment, à une forme de réalité.
Extrait de En Marche, votre livre, Benoît Duteurtre. Telles étaient les pensées sombres de Mélanie devant sa rue absurde où les autos patientaient derrière les bicyclettes. Mais sa colère se fixait d'abord sur l'espace qui la concernait directement. Le trottoir était aussi encombré que la chaussée, car la ville prétendait également réorganiser cette zone où fauteuils et poussettes avaient désormais leur couloir réservé, laissant aux piétons une infime superficie pour se déplacer le long des boutiques de marque. Quant aux cyclistes auxquels on avait accordé tant de privilèges, ils en exigeaient davantage et abandonnaient continuellement la chaussée pour ces mêmes trottoirs où ils se sentaient plus en sécurité. Rapides et silencieux, ils ne semblaient guère s'aviser de leurs engins, déboulant parmi les promeneurs, semant l'inquiétude. Alors il y a un clin d'œil appuyé à Paris dans ses pages, oui, Benoît Duteurtre, et à la politique de mobilité mise en place par la maire Anne Hidalgo. Rappelons justement que le tribunal administratif vient de valider son arrêt interdisant la circulation sur les voies sur berge. C'était donc le pari de la piétonnisation. Écoutons-la à la matinale de nos confrères de France Inter le 8 mars dernier.
Hier, l'Ipsos sortait un sondage fait à Paris. 66% des Parisiens soutiennent la politique que je conduis avec toute mon équipe en matière de réduction de la place de la voiture pour améliorer la qualité de l'air. Et 55% des Parisiens soutiennent aussi cette piétonnisation des voies sur berge. Et ça va dans le sens de l'histoire. Le plan proposé par Madame Pécresse, c'est de remettre des voitures sur les voies sur berge, de remettre des voitures en disant on peut laisser une file pour les piétons et une file pour les voitures. Ça prouve qu'elle n'a pas dû aller trop se promener sur les voies sur berge parce que cette proposition est totalement inopérante et irréaliste. Et en plus, elle ne serait pas acceptée par le préfet de police parce qu'elle créerait pour le coup un danger et elle ne répond pas aux préconisations que le préfet me demande de respecter et que je respecte, qui est notamment d'avoir toujours la possibilité d'avoir une file qui puisse être activée en cas d'urgence, en cas de convoi qui devrait... traversée.
Alors là, c'est aussi intéressant parce que Anne Hidalgo parle au nom toujours des Parisiens et des Parisiennes. Et ensemble, l'un et l'autre, à travers votre roman, vous cherchez quand même aussi à traduire cette novlangue qui n'est pas nouvelle, mais puisqu'on parlait tout à l'heure de Huxley ou de Orwell, comprendre aussi cette langue qui est dans la bouche des politiques.
Ah ben le « celles et ceux » de Macron, il est à toutes les phrases. Là, c'est devenu un système et c'est effectivement assez frappant. Mais juste pour rebondir sur ce que vous disiez et sur ce qu'on entendait. D'abord, bon, pour ce qui est de mon livre En Marche, c'est un conte, mais donc je pousse un petit peu loin les choses, et notamment quand je parle des trottoirs. D'une certaine façon, c'est la communautarisation du trottoir. C'est-à-dire que chacun a sa file. Et dans mon livre, ça finit d'ailleurs par des conflits entre piétons, cyclistes, pousseurs de poussettes, etc. Chacun a son petit monde et tous ces petits mondes-là ne vont pas forcément bien ensemble, ne se comprennent pas. Et quand je vous disais aussi, là j'entendais Anne Hidalgo, quand je vous disais aussi, moi ce qui m'intéresse c'est le concret plutôt que les discours. Moi, les bonnes intentions de la ville de Paris, elles me vont très bien. Simplement, je constate le fait est que j'habite au centre de Paris et que améliorer la qualité de l'air dans mon quartier, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a fait remonter des voies sur berge vers les quais de la Seine, c'est-à-dire vers le cœur de Paris, une énorme quantité de pollution. Donc moi, je me sens pas du tout que je respire mieux aujourd'hui. Si je respirais réellement mieux, je trouverais ça formidable. Mais en fait, la réalité, c'est le contraire. Et pourtant, le discours, c'est on fait tout ça pour améliorer la qualité de l'air. Et il y a toujours un peu ces contradictions comme ça qui me frappent beaucoup entre le discours des politiques et le concret.
François Medeline.
Ce qui est intéressant en fait dans ce que dit Benoît, c'est que en gros, un livre se lit entre les lignes. Ouais. Et je pense que c'est un peu le cas de nos deux romans. Et moi, c'est vrai qu'entre les lignes, ce qu'il y a dans mon livre, c'est pas en fait le contenu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis en exergue une phrase du grand sociologue canadien des médias, Marshall McLuhan. C'est la phrase, c'est en gros, le média est le message. Oui. Et par rapport à tous ces questionnements sur la nouvelle novlangue, en fait, j'ai essayé justement moi de même dans la structure, la forme du roman, de rendre compte en fait de ce monde de ce monde 2.0 où ce qui est important, quand on entend Anne Hidalgo, ce qui est important, c'est pas ce qu'elle dit, c'est qu'elle produit du data. Et tout le monde produit du data à longueur de journée, à longueur de journée, à longueur de journée, à longueur de journée. Ça fait un espèce de bruit incessant. Ouais. Et on en termine par un monde très très fou, parce que ce monde est pas du tout adapté aux gens qui lisent René Char ou qui veulent parler de Aristote ou de Montesquieu. Ce monde est adapté à Donald Trump et à Tweet. Voilà, c'est la pensée de Donald Trump, parce que quand on a ces bruits incessants de data, ce que dit Hidalgo là n'est pas très très transgressif, mais dans ce bruit incessant, il faut être transgressif et violent. C'est les seules informations qui peuvent surnager. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je suis allé jusqu'à tuer le président, sinon on n'en parlerait pas. Parce que voilà, c'est un monde qui est construit comme ça, et donc toutes ces prises de parole politiques sur les chaînes de télé en continu qu'on a inventées lors du 11 septembre, hein, puisqu'on s'est rendu compte que les gens pouvaient rester 8 heures devant la télé à regarder des tours s'effondrer, bah, c'est quand même assez singulier de cette époque qui a un peu perdu le sens, puisque le contenu n'a plus trop d'importance finalement.
Et c'est comme ça en tout cas aussi, François Médéline, que vous racontez les funérailles ou la panthéonisation d'Emmanuel Macron dans le roman. Lorsque les soldats installèrent le cercueil à la croisée des transepts sous le grand dôme et l'apothéose de Sainte-Geneviève, 245 341 followers ou 341 personnes étaient connectées sur le compte de l'Elysée pour suivre le Facebook Live. Les destroyers stellaires de classe exécuteur étaient de vieilles carlingues de l'âge glaciaire. Les turbolasers et les canons à ions des armes de geeks prépubères. La vérité s'écrivait à 300 000 minutes par seconde. C'est ça,
mètre,
dans mots,
mètre. Ouais. Vitesse de la lumière.
Le hashtag RIPEM explosait tous les records de hashtag sur le parvis sous l'inscription « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante » du fronton triangulaire. Le président Larcher avait les bras ballants le long du corps. La veuve Macron saluait la foule de la main droite. Voilà, un roman écrit sous le haut patronage, vous l'évoquiez, du Canadien Marshall McLuhan, le théoricien de la communication de Medium Is the Message, le roman comme médium, la fiction comme plus court chemin pour s'approcher du récit. On en parle jusqu'à 13h30 avec nos invités, les écrivains François Médéline et Benoît Duteurtre. France Culture, il est 13h22.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Alors vous faites, vous, Benoît Duteurtre, référence plutôt à Orwell et à Voltaire, que vous avez déjà cité. Comme l'a écrit Voltaire, il faut cultiver son jardin. On pense avec votre personnage de jeune député en avant, en route pour découvrir ce nouveau pays pas si exotique, mais dont on vante le modèle. On pense bien sûr à Zadig, héros du conte philosophique de Voltaire, qui lui aussi faisait un peu l'expérience désespérante de ce monde dans un Orient de fantaisie. On pense aussi à Candide, peut-être moins pour la comparaison, ou peut-être plus pour la comparaison entre ce cerveau de la réforme qu'est Gloss, voilà. Votre personnage, avec Pangloss, qui est le maître de Candide.
Il va créer le meilleur des mondes possibles grâce à ses réformes.
Exactement. Hein, vous êtes l'un et l'autre, du coup, repartir dans cette tradition littéraire. Vous, de votre côté, François Médéline, c'est un clin d'œil à James Ellroy, que vous avez déjà cité depuis le début de notre discussion, qui a écrit, lui aussi, sur l'assassinat du président Kennedy, sur son clan, sur sa pratique du pouvoir. C'était dans American Tabloid, paru en 1995. Écoutons James Ellroy.
Il y a une question à laquelle je ne réponds jamais dans ce livre.
Is what is literally real and what
qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est de la littérature?
On ne sait pas.
I have rewritten history to my own specifications.
J'ai réécrit l'histoire selon mes propres critères.
It is like a benign form of megalomania.
C'est une mégalomanie bénigne, si vous voulez.
I think my interpretation
je crois
is
que
emotionally
mon interprétation
true.
Est vraie sur le plan émotionnel, affectif.
Psychologically valid.
Et elle est valable sur le plan psychologique.
Intellectually precise.
Et elle est précise sur le plan intellectuel.
Did something like this happen?
Alors, est-ce que ceci s'est produit?
Yes.
Oui.
Did Jack Kennedy
est-ce
happen
que
to go
John
to bed?
Kennedy s'est couché?
With this foxy twist bunny named Barb.
Avec X ou Y.
In the spring of 1962?
Au printemps 62?
I don't know, you tell me.
Ben, j'en sais rien, dites-le-moi.
If I can make you believe it,
si je peux vous le faire croire,
then I'm doing my job.
Eh bien, à ce moment-là, j'ai fait mon boulot.
François Médéline, Benoît Duteurtre, est-ce qu'il faut faire croire que tout ce qui est arrivé est possible, que tout ce qui arrive est possible, ou tout ce qui arrivera est possible? Est-ce que c'est ça aussi la fonction du roman?
La fonction du roman, c'est un peu ce que dit James Ellroy, que je vénère par ailleurs. Mais pour le coup, je ne suis pas vraiment tout à fait d'accord avec lui. Le livre est vrai. La vérité dans les écritures, c'est le réel qui est faux. Et ce livre sera toujours vrai. L'important, c'est pas de savoir si ça s'est passé ou pas passé. Mais le souci de moi quand je l'écris, et même la difficulté d'ordre littéraire, c'est que voilà, on braque le réel, on emporte le butin, mais après on le montre au lecteur, et il faut que ce soit crédible. Et c'est vrai que dans la restitution, moi, des personnages que je fais, comme j'utilise les vrais noms, voilà, le personnage s'appelle vraiment Macron, il y a Trump, il y a Poutine, il y a Édouard Philippe, il y a Gérard Collomb, et c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de James Ellroy, et puis c'est une tradition en fait française, depuis Molière. Dans le traitement, il faut un petit décalage, mais il faut que ça reste crédible. Voilà, il faut que ça renvoie quand même au réel pour que les gens le croient. Et c'est vrai que moi, j'ai trois personnes qui ont lu le livre et qui, c'est peut-être ça aussi le pouvoir de l'écriture, c'est que ils ont lu le livre et ont écouté pour une personne la radio, deux autres la télévision, et en fait ont vu Emmanuel Macron parler, et l'espace de 2 secondes, on dit mais ce n'est pas possible, Emmanuel Macron est mort, après avoir lu Tuer Jupiter. Bon, après ils ont secoué la tête et se sont rendu compte qu'il vivait bien dans le réel et pas dans le livre.
Il était facile à anticiper, par exemple, le départ de Gérard Collomb?
Non, il était plutôt dur à anticiper, et c'est aussi une grosse difficulté de ce roman-là, comme ça fait référence à des personnages réels. Je dis souvent, c'est comme sculpter avec des bulles de savon, premier coup de vent, tout s'en va. Moi, je l'écris sur l'océan Atlantique, sur un voilier, sans connexion Internet, et quand j'écrivais le roman, voilà, j'écrivais une scène sur Trump, sur la Corée du Nord, et je savais qu'en arrivant aux Amériques, en Martinique, si bien ce garçon aurait déclaré la guerre à l'Iran. Donc c'est vrai que c'est assez difficile, mais à partir du moment où Gérard Collomb a démissionné, parce que voilà, ça interroge le rapport entre la fiction et la réalité, ce bouquin, et ben voilà, on est typiquement dans le domaine de la fiction. Et dans un an, quand plus personne se souviendra des dates, ça posera plus de problèmes de lecture.
Aujourd'hui, on a Emmanuel Macron qui nous alerte dans les colonnes de Ouest-France sur un retour possible aux années 30, sur le contexte européen, le contexte mondial. Donc là, des mots qui quand même ont un sens, ou en tout cas veulent dire quelque chose, Benoît Duteurtre. Au-delà de ça, dans vos romans, on sent une critique des mondes modernes, parfois assez excessive. Mais grossir le trait, c'est justement aussi essayer de mieux saisir ce qui se joue. Qu'est-ce que ça nous dit, tout cela, de la puissance ou de l'impuissance des mots, ceux d'Emmanuel Macron comme ceux du romancier? Qu'est-ce que ça nous dit de la tragédie du pouvoir aujourd'hui?
Écoutez, en tout cas, comme vous dites, moi je grossis le trait, hein, c'est effectivement la démarche un petit peu contraire, c'est presque une bande dessinée, hein, c'est Thomas Henrugéni qui visite ce pays imaginaire, et donc l'idée, au contraire de ce qui vient d'être dit, c'était plutôt de concentrer dans ce pays imaginaire toutes les folies de notre société pour que finalement leur absurdité apparaisse et pour mettre une sorte de lumière dessus. Mais au fond de ça, effectivement, il y a effectivement la tragédie, il y a le retour de la guerre, il y a l'utilisation même des conflits guerriers dans le jeu de la communication dont on parlait à l'instant, et c'est ça qui est terrible. Bon, on peut évidemment comparer notre époque aux années 30. Moi, je trouve pas cette comparaison tellement pertinente, mais j'ai vu qu'effectivement c'était le dernier discours d'Emmanuel Macron. Mais voilà, il faut s'aviser de ne pas non plus construire un monde qui génère tellement de conflits communautaires, qu'effectivement, peut-être, il peut arriver à cette forme de catastrophe.
Merci beaucoup, Benoît Duteurtre. En marche, votre conte philosophique vient de paraître chez Gallimard. Merci à vous, François Médéline. Tuer Jupiter, c'est donc un roman, et il a paru à la Manufacture de Livres. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Iseut Sicard, Henri Leblanc et Oriane Delacroix, à Jean-Christophe Brianchon, Mayane Escovic et Laura Dutèche-Pérez, qui ont programmé et préparé cette émission à Jordan Joseph et à Jeanne Copé pour leur aide très précieuse. À la réalisation aujourd'hui, c'était Anne-Laure Chanel avec Clément Daté. Très bel après-midi à tous sur France Culture.